Radio Fribourg,
c'est que du bonheur avec Amaël.
De toute façon, c'est à chaque fois que du bonheur de recevoir Lucien Vimin. Il y a un problème, Lucien ?
Non, ça va bien, je parlais un peu trop tôt apparemment.
Ah d'accord, pas de souci, pas de problème. Lucien Vimin, fondateur de lachaussurerouge.ch et auteur d'un troisième petit livre qui nous aidera à prendre soin de la planète, encore une fois, son titre... Tu parles, Charles, manger local, c'est loin d'être idéal. Ça, c'est le titre du livre. Bonjour, Lucien.
Bonjour, Amaël. Bonjour à toutes et à tous.
Plaisir de vous retrouver. J'ai cité la chaussure rouge. Alors, un petit mot encore pour qu'il y ait encore plus de monde qui se rende sur cette plateforme Internet.
Oui, alors la chaussure rouge, en fait, c'est un symbole, le symbole du prendre soin de la vie qui a été créé pour permettre une communication collective. Ça veut dire que, en fait, en donnant des conférences, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, même parfois très engagées, se sentent découragés par rapport à l'immensité du travail qu'il y a à faire sur le plan environnemental. Et c'est dommage parce qu'il y a des millions et des millions de personnes qui se mettent en marche chaque jour, et chaque jour, il y a de nouveaux petits lampions qui s'allument. Et c'est dommage, ça ne se voit pas assez. Donc il s'agit de vraiment mettre en lumière tout ce positif qui nous entoure au quotidien et de donner la parole à tous ceux qui ont quelque chose à dire et qui font quelque chose pour ça. Donc en fait, il s'agit, au-delà d'être et de faire, c'est être, faire, mais aussi transmettre. C'est important de communiquer. Souvent, on oublie de communiquer. Et c'est de communiquer ensemble. Ensemble, à travers un symbole. Donc, le symbole de la chaussure rouge. Donc, sur le plan individuel, ça peut se porter au pied. Donc, voilà, moi, je ne mets plus que des chaussures rouges, par exemple.
C'est quoi aujourd'hui ? Les baskets ?
Oui, c'est ça, parce que le short, c'est
ça. Ah oui, le short et basket.
Oui, c'est mieux. Une chaussure habillée. Et en fait, il y a aussi des petits autocollants qui existent, des petits autocollants qui sont là pour, en fait, valoriser nos vieux objets. Ça va. Il y a un grand autocollant qu'on peut obtenir sur le site gratuitement parce que c'est que du bénévolat. Ça va du nattel à la voiture. C'est pour démontrer que, en fait, un objet, garder son objet et le réparer, le faire vivre le plus longtemps possible, c'est une belle manière de prendre soin de la vie et de prendre soin de nos objets, c'est en fait prendre soin de nos vies. Et ça, c'est important de le comprendre. Et lorsque vous prenez soin d'un de vos objets, pensez que vous êtes en train de prendre soin de votre propre vie, mais aussi de la vie de tous ceux qui vous entourent. Ça, c'est génial. Et puis sur le plan collectif, pour une association ou une ONG, c'est la possibilité d'avoir le petit symbole qui se met à côté du logo de la société ou de l'entité en question. Et pour ça, on a un onglet sur le site de lachaussurerouge.net, un onglet qui s'appelle Coacteur, où on retrouve les différents organismes qui ont décidé de participer à cette communication, parce qu'il s'agit bien de participer et non pas de faire partie d'un groupe ou d'une communauté. C'est juste à disposition pour permettre de participer et mettre en lumière tout ce positif qui nous entoure au quotidien.
Et il y en a de plus en plus ?
Oui, ça va bien. Oui, tout à fait. On est à plus de 2500 maintenant, etc. Mais voilà. Bon, l'idée n'est pas d'aller vite, mais plutôt d'aller d'une manière durable.
Oui, absolument. De prendre le temps. Pour l'anecdote, j'en avais quelques-uns chez moi, des autocollants de la chaussure rouge. Et puis ma petite fille m'a demandé de lui expliquer ce que c'était. Puis j'ai tenté de lui expliquer. Puis du coup, elle a collé l'autocollant sur mon essoreuse à salade en me disant « Les vieilles et moches, ton essoreuse à salade.
» C'est excellent. Justement, par exemple, typique, les nattels, par exemple, c'est une belle manière de communiquer.
Oui, absolument.
De valoriser les nattels. Et il y a une histoire qui m'est arrivée, j'étais d'une soirée. Et je vois une dame qui ouvre son attel, un vieux Motorola. Je dis, waouh, super le vieux attel. Puis je dis, oh, ben, ça me surprend que vous disiez ça. Parce que c'est souvent la honte. Il y a sa fille qui était juste derrière parce que c'est la honte. Pour ma fille, me dit toujours qu'il faudrait que je change mon attel. Parce que c'est un vieux attel. Je dis, mais changez-le surtout pas. Il sort le petit autocollant de la chaussure rouge pour lui parler de la chaussure rouge. Puis tout à coup, quelques instants plus tard, il y a deux jeunes qui arrivent là. Puis ils disent, ah, la chaussure rouge. Puis ils sortent les deux de leur attel.
Joli.
Avec le symbole de la chaussure rouge dessus. La dame, elle va vers eux, elle dit « Ouais, mais le mien, il est plus vieux. » Comme quoi, l'idée, c'est vraiment là, la possibilité de changer la norme, en fait, de faire que, peut-être dans 5 à 7 ans, plutôt que d'être fier de sortir un tout nouveau nattel de la poche, on sera fier de sortir un vieux nattel de la poche, et à ce moment-là, on aura vraiment changé beaucoup de choses.
Ouais,
on aura aussi compris beaucoup de choses.
Absolument, Lucien. Merci beaucoup pour cette jolie anecdote aussi. On va en revenir au livre. Alors, il y en a eu deux avant. Il y a eu En voiture Simone, qui expliquait ce qu'était l'énergie grise, et puis ensuite Fonce Alphonse, qui parlait de la croissance et de la décroissance, et comment on pourrait aller vraiment dans le sens de la décroissance. Et puis, pour ce troisième volet, vous avez choisi, Lucien, de vous intéresser à ce qu'on met dans nos assiettes.
Oui, parce que ça génère aussi de l'énergie grise. Et là, comme les deux premiers livres, il s'agissait vraiment d'offrir la possibilité à tout un chacun d'élargir son horizon de réflexion pour pouvoir se réapproprier la réflexion et aussi redevenir acteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, on a tendance à répéter un peu comme des perroquets, puis à la fin, on crée des suiveurs avec tout ça, et on suit comme des moutons. Donc il s'agit vraiment de pouvoir reprendre la parole.
Alors ce que je veux dire aussi d'emblée, c'est que vos livres, ils sont argumentés. Hein, c'est pas croyez-moi sur parole, c'est vraiment argumenté. Mais c'est des tout petits bouquins qui sont lus en 45 minutes et donc qui sont pas du tout réservés à une élite de gens qui comprennent l'écologie de manière profonde ou économiquement ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour tout un chacun dans la vie de tous les jours pour qu'on comprenne mieux la situation.
Oui, souvent on me dit que ça se lit comme un roman. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment chouette parce que de pouvoir le travail et là, c'est un travail de vulgarisation qui n'est pas facile parce qu'on peut vite être simpliste ou réducteur. Donc, c'est le grand travail, c'est de pouvoir synthétiser les choses tout en restant quelque chose de cohérent, quoi, et de dans la justesse.
Ouais. Alors, si je reprends le titre de ce troisième livre, tu parles, Charles, manger local, c'est loin d'être idéal. On n'aime pas trop entendre ça. Moi, j'ai dit cette phrase quelques fois ce matin ici, et on m'a regardé, quoi, mais manger local, c'est important de manger local. Et vous avez déjà posé cette question plusieurs fois sur notre antenne, Lucien, entre une carotte bio de l'étranger ou une carotte locale non bio, chimique, laquelle choisir ?
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on fait un micro-trottoir et qu'on va poser cette question-là, le 95 à 98% des personnes répondront, ben, je choisis en fait la carotte locale, donc conventionnelle locale. Donc, hein, il faut bien préciser, c'est entre une non-bio locale et une bio à l'étranger. Et c'est vrai que la majeure partie vont choisir la non-bio locale, parce que c'est vrai que nous sommes habitués, on cultive aujourd'hui le local, parce qu'on est capable aujourd'hui de voir le transport de la carotte. Et c'est vrai qu'en fait, on a des labels qui sont créés par de grands distributeurs de ma région, et on pousse beaucoup au local, mais avec de belles images qui accompagnent de ma région. Ce sont souvent des pouleureuses, des belles pommes cueillies à l'arbre, avec des chars en bois. On a pratiquement montré des chevaux qui passent à charrue. Donc, à un moment donné, c'est ça. Ça masque la réalité de notre agriculture actuelle. Et ce que le public... ce choix-là, je comprends tout à fait, c'est tout à fait normal. Mais si on s'arrête un petit moment et qu'on essaie d'ouvrir les œillères et de réfléchir plus large, à ce moment-là, on se rendra compte aussi que la carotte locale, même si elle vient d'à côté de chez moi, mais qui est non bio, cette carotte, on a l'impression qu'elle n'a pas généré de transport, mais oui, elle a généré beaucoup de transport, parce que la chimie qui est nécessaire pour cultiver cette carotte, franchement, a généré beaucoup, beaucoup de transport.
Plus que la pollution qu'on imagine de la carotte qui vient de France.
C'est-à-dire qu'on voit le transport de la carotte, mais on ne voit pas le transport de la chimie. Mmh. Et c'est ça notre problème actuellement. Et le transport de la chimie, c'est une chose, parce que c'est... On parle de transport, donc on parle d'énergie, donc d'énergie grise, donc c'est ce qui va favoriser le rejet de CO2, donc favoriser l'accélération du réchauffement climatique. Donc il s'agit d'en prendre note, hein, c'est important ça, d'essayer de faire mieux, de tendre à faire mieux dans cette voie-là. Mais ce qu'on oublie beaucoup aussi, c'est la fabrication de la chimie. Et la fabrication de la chimie, c'est beaucoup de substances toxiques qui partent dans les sols, dans les eaux, dans les rivières notamment, et dans les airs. Et ensuite, il a déjà fallu beaucoup de transport pour aller amener tous les éléments qui vont composer cette chimie. On fabrique cette chimie qui génère la pollution chimique. Ensuite, cette chimie-là, une fois qu'elle est prête, elle devra être transportée pour aller dans des stockages. Puis depuis ces stockages, transportée jusqu'à ce que l'agriculteur, qui lui, enfin, va pouvoir l'utiliser. Je dis enfin, donc c'est bien entendu... De l'humour.
Oui.
utilisé pour pouvoir être répandu dans les champs. Ouais. Et là, il y a encore un troisième acte, et c'est l'acte le plus important, c'est que la chimie va pouvoir dégager toute sa puissance pour aller tuer la vie. Et ces éléments-là, on ne voit pas vraiment dans le compte de tout ça.
Alors effectivement, on va continuer maintenant sur l'aspect des pesticides à travers votre livre. D'abord juste un chiffre, 2100 tonnes de pesticides répandues en une année en Suisse. Ça tombe comme ça, on ne se rend pas compte, on parle de tonnes effectivement.
Oui, on arrête la peine à s'imaginer. Bon, il faut dire que tous ces tonnes de pesticides ne concernent pas que l'agriculture, hein. On a aussi les CFF, il y a aussi les waris, hein. Il y a aussi les individus dans leur jardin. Donc, mais c'est dans une bonne partie de cette chimie, là, les pesticides sont bien entendu utilisés par l'agriculture. Ceci dit, il faut aussi bien savoir que tout ce qui est pesticides regroupe notamment herbicides, fongicides pour les champignons, insecticides pour les insectes, etc. Et juste prendre bien la mesure de ces mots, c'est-à-dire qu'un mot qui porte le suffixe « cide » est un mot, en fait, qui a un rapport avec la mort. Ça, c'est très important, comme le mot suicide. Et ce qui veut dire que lorsque un de ces mots traduit à produit, c'est-à-dire que ce produit sème la mort autour de lui. Donc, un herbicide serait là pour tuer les végétaux, un insecticide serait là pour tuer des insectes, et un fongicide serait là pour tuer des champignons. Il faut savoir aussi qu'une partie de ces pesticides résultent en fait de la chimie, des armes de guerre. On retrouve des des composants de l'agent orange, tels que par exemple le D4D, sont des agents, ouais, c'est un peu technique, mais c'est-à-dire que c'est des choses comme ça qu'on utilise aujourd'hui pour cultiver ce qu'on va manger.
Le gaz sarin aussi.
Le gaz sarin, effectivement aussi. On a des dérivés du gaz sarin, donc ce n'est pas le gaz sarin lui-même. Ouais. Le DDT, à un moment donné, bon, a été interdit maintenant, mais a été aussi utilisé dans l'agriculture. Donc des armes chimiques qui sont là pour tuer. Et ce qui est intéressant, et c'est vrai que la petite Lily, à chaque fois, au début des bouquins, la petite Lily qui posait question à son grand-père, ouais. Donc on se projette à 2077.
Ouais.
Et la petite Lily, qui, ce serait comme mes petits-enfants, en fait, pose la question, me pose la question, puis mais comment vous avez pu faire ça? Comment vous avez pu utiliser des dérivés d'armes chimiques de guerre pour cultiver ce que vous faites à manger? Et c'est vrai que cette projection sur le futur nous permet ici, et on revient ici en 2017, et se dire, mais oui, finalement, comment est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Et on commence l'analyse. Donc, c'est important de bien comprendre cela.
Donc, dans les années 50, quand on a commencé à utiliser ces produits, en quelque sorte, on les a recyclés pour les utiliser sur la Terre?
C'est qu'à les années 50, on sortait des deux guerres. Hein, donc, et c'était génial, parce qu'on était, éblouis par cette chimie qui arrivait, qui a créé, en fait, une agriculture moderne. Hein, c'est ça, le modernisme. C'était une agriculture cette chimie a fait exploser les rendements, a simplifié le travail, plutôt que de passer dans les champs à la main ou mécaniquement pour arracher l'herbe qui n'était pas tellement désirée, on passe avec un épandage et c'est liquidé, les insectes pareil, et les rendements ont augmenté, bien entendu le travail s'est simplifié, c'était enfin nous n'aurions plus jamais faim. Donc on peut bien comprendre que les gens de l'époque ou les scientifiques de l'époque, tout le monde a vécu un éblouissement. Et ce qui veut dire, on ne pouvait pas aussi voir ce que ça voulait dire, parce que cette chimie-là, elle met du temps à montrer son vrai visage, en fait. Mais ce qui se passe aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, la chimie nous a montré, cette chimie nous montre quel visage elle a, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser cette chimie? Et aujourd'hui, on ne peut plus faire fi de ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, il s'agit vraiment de sortir de cet éblouissement qui nous paralyse, en fait, et qui nous met en léthargie, en fait, et de vraiment pouvoir maintenant avancer et commencer à revoir les choses.
Je crois que quand on a compris cette phrase choquante, il se passe quelque chose dans la tête, de savoir qu'actuellement, on utilise encore consciemment des produits qui sont faits pour tuer la vie.
Oui, c'est très important, et pour nous nourrir, c'est ça qui est fou.
Pour nous nourrir.
Donc, c'est vrai que vous aurez des personnes qui défendent cette agriculture conventionnelles qui arriveront même vous expliquer. J'étais dans un débat sur RTS on arrivait même à nous expliquer, c'est M. Bourgeois qui nous expliquait que finalement ces pesticides c'était pour soigner la vie, soigner les plantes. Donc on prend l'exemple de la chimie qu'on utilise pour notre corps, pour nous soigner, etc. Donc on fait le même parallèle. C'est assez fou d'entendre cela. Je crois qu'il s'agit vraiment de sortir de cette léthargie, justement, de cet éblouissement, et de se rendre compte que ça, non, aujourd'hui, nous sommes en train d'abîmer la vie, c'est vraiment ça, d'abîmer la vie pour nous faire à manger, donc de la nourriture qu'on va ingurgiter, donc on abîme notre vie en ingurgitant, mais la vie aussi qui nous entoure, la nature, et de penser qu'on peut continuer comme ça à long terme, à continuer à, en fait,
endommager
la vie, empoisonner le vivant. Et penser pouvoir rester sain, nous, être humains, au beau milieu d'une nature affaiblie, c'est vraiment une grande utopie, c'est la plus grande des utopies.
Effectivement. Un tout petit mot, Lucien, encore avant la pause musicale, sur les pommes, parce que je pense que comme beaucoup de mamans, voilà, à 4 heures, on coupe des pommes, on pense faire bien en donnant des pommes à nos enfants. Les pommes, en Suisse, elles subissent jusqu'à 30 traitements.
Oui, de produits de synthèse, donc, donc la chimie qui est là pour tuer une nouvelle fois. Effectivement, ce sont les sources d'agroscope, donc quelque chose de tout à fait sérieux, hein, c'est vraiment ce qui se passe. Donc se dire que lorsque je croque dans une pomme, personnellement, je ne veux plus de pomme autre que bio, c'est terminé. Et c'est vrai que ce qui se passe, peut-être la pomme bio a peut-être moins belle allure, et elle peut avoir des petites taches, etc. Mais c'est vrai qu'on s'est aussi habitué à ça, hein, avoir quelque chose de tout net, tout propre, puis il nous semble parce qu'il y a des tâches que c'est pas bon. Mais en fait, c'est là qu'on voit, on a complètement perdu sens, en fait, on perd pied. On est en fait hors sol. Et il s'agit vraiment de réintégrer le sol et de revenir logique dans notre manière d'appréhender les choses. Ça, c'est
important. Remettre les pieds par terre.
Oui. D'ailleurs, par rapport à la pomme, si je me permets, Maëlle, c'est qu'il y a un petit dessin, justement, parce que Mix et Remix, on a chaque fois un illustrateur, un dessinateur qui accompagne ces petits livres. Ces petits livres, c'est Mix et Remix pour les deux premiers, pour En voiture, c'est moi, Défonce Alphonse. Et là, pour dont tu parles, Charles, ben, Mix étant, nous ayant quitté malheureusement en décembre dernier, ça c'est d'ailleurs une grande perte pour nous tous, pour notre collectivité, ouais. parce qu'il arrivait à nous interpeller de manière ouais. tellement belle. Or, on a un autre dessinateur de presse qui s'appelle Pitch, un jurassien, qui a très très bien relié tout ça. Et Guillaume Livou Lapaume qui nous fait un petit dessin où en fait Guillaume Tell qui a bien visé la paume est par terre, elle a croqué et son enfant est mort. Mort du fait qu'il a mangé croqué la paume. Ouais. Donc, l'enfant, je trouvais assez sympa. C'était bon, on grossit très bien entendu. Hein.
Bien sûr. Ouais.
Mais ce qui était sympa, on voit la flèche a bien atterri, elle a bien atterri dans la paume, mais l'enfant est décédé. Non pas par la flèche, mais par la paume qu'il a croquée.
Ça permet aussi hein, ce petit aparté sur la santé, parce que ça commence, si l'industrie, si on a mis du temps à découvrir que la chimie détruisait les sols, on commence aussi à voir que la chimie a empoisonné nos corps. Hein. Maintenant, il y a beaucoup de cas de cancer, on dit que c'est dû à ce genre de choses. On se demande aussi un peu toutes les allergies, toutes les intolérances chez nos enfants aujourd'hui. Ça peut être lié ?
Ben, effectivement, il y a plusieurs scientifiques d'ailleurs qui sonnent l'alarme. Je pense qu'il s'agit bien d'écouter ces choses-là. Je pense que dans plusieurs domaines, il n'y a pas que la nourriture, mais je vois, il y a plusieurs, je dirais, signes avant-coureurs. Je dirais, par exemple, je prends un autre exemple, je sors un peu du sujet, mais les personnes qui sont hypersensibles à toutes les ondes, par exemple, je dirais, on a tendance à les mettre un peu de côté en disant, ouais, c'est du spéciaux, etc. Mais je pense que c'est plutôt les signes avant-coureurs, nous devrions écouter ces choses-là. Et vraiment, ça devrait nous remettre en question profondément. Mmh. Très important.
Bien. Et puis, signaler tout simplement qu'en achetant des produits non bio locaux, ben, on contribue à l'épandage de tous ces produits dangereux. C'est ça qu'il faut intégrer maintenant.
Vraiment ça, à l'épandage, donc ça veut dire à abîmer les sols, à abîmer la vie, nos vies à toutes et à tous, à aussi à abîmer notre santé en les ingurgitant, mais également à renforcer la force à renforcer en fait la force et la puissance économique de l'industrie agrochimique. Et ça, c'est important. Donc, ça veut dire que notre argent va dans des sociétés, des entreprises qui, actuellement, travaillent à vraiment abîmer la vie. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience aussi.
On va développer ça un petit peu tout à l'heure.
Volontiers.
On va écouter Le pouvoir des fleurs, cette belle chanson de Laurent Voulzy. Et qui dit fleurs dit insectes. Et ça, vous le dites aussi dans votre livre, on voit de moins en moins d'insectes.
Oui, et moins en mode fleurs également. Mmh. On en reparle tout à l'heure.
Volontiers.
Merci.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber notre espoir, on laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats pour changer.
pouvoir des fleurs, Laurent Voulzy sur Radio FR. Notre invité ce matin, Lucien Vimin. On a fait un clin d'œil aux insectes avec cette chanson, Lucien. Et puis c'est vrai que c'est aussi une histoire que vous nous avez racontée quelquefois, que bah, vous voyez beaucoup moins d'insectes sur votre pare-brise.
Oui, effectivement, c'est une petite histoire qu'on retrouve dans le bouquin. C'est que vous savez que quand j'étais plus jeune, c'est une histoire que je raconte, c'est vraiment du vécu. J'aime bien toujours mettre un petit morceau de vécu dans ces petits livres. En fait, quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, 18 ans, j'étais avec des copains, on était foot bagnole en fait. Et puis, on bichonnait nos voitures tous les week-ends. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était vraiment embêtés parce que beaucoup d'insectes sur le pare-brise, sur la calandre, sur les phares. Et c'est toujours difficile d'enlever ces insectes. Et on avait trouvé un truc, c'était les nylons de nos mamans, en fait, qui étaient percés. Donc, on prenait les bas de nylon de maman pour enlever ces insectes. Et ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est qu'en fait, ma voiture aujourd'hui, je la nettoie une à deux fois par année et je n'ai plus de problème d'insectes, en fait. Donc, franchement, les insectes ont disparu. Et ça vaut toutes les études du monde. Donc, c'est une réalité. Et pour ceux qui n'ont pas à mon âge, c'est-à-dire proche de la cinquantaine, qui n'ont peut-être pas vécu cela, pour les jeunes qui commencent maintenant à conduire ou qui ont l'expérience de faire bouger un véhicule, eh ben je les invite simplement à observer leur pare-brise après le retour des vacances, par exemple, quand ils iront dans le sud de la France ou ailleurs, qui regardent le nombre d'insectes qui sont projetés sur leur véhicule. Il y en a encore quelques-uns, mais c'est vraiment peu par rapport à ce qu'on vivait à l'époque.
Alors Lucien, on va s'intéresser aussi tout à l'heure à comprendre un peu la situation des agriculteurs en Suisse, mais avant il vous tient à cœur de parler un peu du bio, parce qu'on a toujours un peu les mêmes questions. Le bio, c'est cher. Le bio, on commence à parler de bio-industriel dans les grandes surfaces. Le bio de Suisse n'est pas le même que le bio d'Espagne ou de France. Qu'est-ce que vous savez là-dessus?
Effectivement, alors là, ce qui est important, là aussi, on répète comme les perroquets, hein, on nous dit souvent, ouais, le bio de Suisse est autre chose que le bio européen. Alors, j'ai décidé de lire une fois, me taper le cahier des charges de bio Suisse et de bio Europe. Et ce qui n'est pas une lecture les plus intéressantes, mais intéressante quand même, parce que ça nous permet de vraiment savoir de quoi on parle, c'est ça qui est important. Et en fait, il y a trois éléments, effectivement, qui diffèrent, mais qui ne sont pas si énormes que ça. Le premier élément, c'est que, en fait, pour le bio, bon, il y avait le bio, donc qu'on sache bien de quoi on parle. Le bio suisse, c'est le petit bourgeon. Et le bio français, c'est AB. Et le bio européen, c'est la feuille étoilée. J'espère que vous les voyez. Okay. Et aujourd'hui, c'est vrai que le bio AB, c'est-à-dire le bio français, était aussi, voire plus strict que le bio suisse à l'époque. Mais depuis 2009, la France a dû se mettre à niveau par rapport à l'Europe. Et là, effectivement, ça s'est un peu assoupli. Et quels sont les assouplissements? Ben, il y en a trois majeurs. C'est le premier, c'est que on accepte dans un produit transformé, j'ai bien un produit transformé, donc pas d'une pomme ou une carotte, mais dans un produit transformé, par exemple dans un biscuit, on accepte que le 5% ne soit pas bio.
D'accord.
Donc 5% des ingrédients utilisés dans un biscuit bio européen peuvent provenir de l'agriculture non bio. Ce pour autant que la personne de l'industrie qui a créé ce biscuit puisse démontrer qu'il n'y avait pas d'ingrédients bio à cette partie, à ce moment-là de l'année ou de la saison. Ensuite, c'est la première différence, donc ça reste assez minime malgré tout. L'autre élément, ça concerne les OGM, c'est-à-dire que sur le bio européen, on accepte que 0,9% de traces d'OGM. Ça veut dire que c'est par accident, on accepte s'il y a un accident, mais donc dans un camion ou dans un train, il y a eu du transport de céréales OGM, et qu'après ce même camion, on transporte de l'OGM,
de l'OGM biologique,
des céréales bio, il peut y avoir des fois ce genre d'accident. Ouais. Donc voilà, ça c'est les deux éléments. Et puis le troisième, qui est pour moi le moins sympa, je dois dire, c'est que notamment en France et en Italie, il y a la possibilité d'avoir une ferme, une exploitation qui est à moitié 50% bio et 50% non bio. Alors là, c'est quelque chose qui n'est pas terrible. Alors, c'est pour ça que.
Ça ne fait pas beaucoup de sens non plus.
Non, c'est vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau label bio qui s'appelle Biocohérence qui est né en France, justement, où là, certains agriculteurs ont décidé de faire un label bio qui soit plus strict et qui n'est pas plus strict à ce niveau-là, mais dans beaucoup d'autres choses où tout pourrait être que français. Donc on voit que. Il y a de beaux garde-fous, et de se dire que les différences ne sont pas aussi importantes que ce qu'on veut bien nous entendre dire. Donc, je dirais que, voilà, on nous parle aussi souvent des contrôles, qui sont beaucoup plus contrôlés en Suisse qu'ailleurs. C'est qu'en Suisse, on a tendance à penser qu'on est bien contrôlé. C'est vrai que ça contrôle bien. On a aussi une manière, une tendance à être un peu hautain par rapport au pays qui nous entoure. On a l'impression que tout ici, c'est toujours être nickel et ailleurs, c'est toujours louche. Mais bon, le vrai contrôle, c'est tout à fait sérieux. Seulement, c'est clair que aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, la triche peut toujours arriver. Mais je dirais aussi que les tricheries peuvent très bien aussi arriver dans l'agriculture conventionnelle, qui a quand même des normes au niveau des doses de pesticides d'utilisation, et aussi bien dans l'agriculture IP suisse avec la fameuse petite coccinelle. Donc on voit que la tricherie, elle peut être d'un côté et de l'autre. Donc effectivement, voilà.
Alors un dernier mot aussi sur les prix, parce que c'est souvent ce qui retient les gens, faire ses achats de fruits et légumes bio, dire aussi peut-être que... quand on lit par exemple le livre « Les carottes ne suffisent pas », où on a suivi pendant une année le maraîcher bio Kfeller, on voit le travail de jour, de nuit, que tout se fait à la main, qu'il emploie 20 personnes pour avoir des produits qui sont complètement naturels. Ce travail se paie.
Vraiment, c'est ça, c'est que le coût du bio, c'est beaucoup plus de main-d'œuvre. Donc ça coûte, donc c'est intéressant, c'est de la main-d'œuvre locale qui est saine. C'est la main-d'œuvre saine du fait qu'on crée de l'alimentation saine pour le mangeur. Et ça, c'est quand même intéressant. Ceci dit aussi, c'est clair que, par exemple, c'est dans les champs, au niveau des champs, s'il y a des herbes fâcheuses qu'on ne désire pas dans son champ, on va enlever mécaniquement ou à la main. Donc, ça va être trois à quatre passages dans un champ biologique, alors que dans un champ chimique, avec un passage des herbicides, c'est fait. Donc, on gagne du temps. Bon, la chimie coûte aussi quelque chose, il faut être clair. Mais ceci dit, voilà. Mais aussi, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des intermédiaires, c'est que la manière de calculer leur marge au niveau des intermédiaires, c'est en pourcentage. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si... Alors, je prends des chiffres complètement...
Aléatoire.
Voilà, juste pour qu'on se comprenne ici, que nos auditeurs puissent comprendre. Si, par exemple, j'ai une carotte, le kilo de carotte bio qui est 5 francs le kilo, et que la marge d'un des intermédiaires, c'est de 20%, il va prendre 20% sur 5 francs. Donc, ce sera 1 franc de plus. Alors que si la carotte non bio, elle coûtait, par exemple, 2 francs 50, il va prendre ses 20%, ça va augmenter que de 50 centimes. Mmh. C'est-à-dire que juste à travers la marge, sans devoir rajouter une plus-value au produit lui-même, on a déjà 50 centimes de plus au kilo. Vous voyez, et ceci additionné avec chaque intermédiaire qui prend sa marge, chaque fois, ça fait beaucoup, ça fait à la fin pas mal. Ceci dit, il faut aussi bien comprendre que lorsque on... Oh, je me perds. Ceci dit, il faut bien comprendre aussi que finalement, cette nourriture-là, c'est aussi une nourriture qui aura préservé la vie dans les champs, mais préservé aussi la vie de celui qui le choisira, qui le mangera. Et ça permet aussi d'éviter de donner plus d'argent à de la main-d'œuvre de Suisse qui va dans un sens du prendre soin de la vie que d'aller alimenter l'agrochimie. Donc, ça va aussi de savoir où on met son argent.
Bien, merci beaucoup pour ces précisions concernant le bio. Et maintenant, on va s'intéresser aux principaux intéressés, justement, ce sont les agriculteurs. Et c'est vrai que c'est jamais facile de comprendre ce qui se passe dans le monde des agriculteurs, politique, agriculture. Tout ce qu'on sait, c'est que pour les paysans, pour les agriculteurs, c'est difficile. C'est ça, on l'entend toujours.
C'est très dur. Et c'est vrai qu'il s'agit de le dire, et qu'on soit dans l'agriculture biologique ou l'agriculture conventionnelle, c'est dur. Et c'est quelque chose qui est fou, c'est-à-dire se rendre compte que aujourd'hui, les personnes qui cultivent la nourriture, qui nous nourrissent en fait, qui travaillent dur tous les jours, 7 jours sur 7, qui se lèvent tôt le matin, qui se couchent tard la nuit. Moi, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de voyages, de vacances à la ferme avec les enfants quand les enfants étaient petits. C'est de voir jusqu'à 10 heures, 11 heures, ils sont encore dans les écuries. Je trouve c'est vraiment très dur. Et il y a tellement peu de reconnaissance par rapport à eux. Et c'est vrai que c'est pas facile pour nous citoyens qui sommes devenus de plus en plus urbains. On entre dans ces grandes surfaces, tout est emballé, propre, etc. On a une déconnexion avec le fait que à la base c'est un agriculteur qui se lève tous les matins et très tôt et qui se couche le soir très tard pour pouvoir nous faire que cet aliment soit là. Donc je dirais ce qu'il faut aussi bien voir avec cela, c'est que malgré ce travail dur, ces labeurs durs et l'importance de ce travail pour nos vies, les agriculteurs n'arrivent pas à vivre du revenu de leurs produits, de leur production. C'est-à-dire qu'ils doivent être subventionnés. On a déguisé un peu ces subventions par des paiements directs pour que ça ait un peu plus d'allure, quoi. Mais donc, malgré tout, c'est ça. Et ça, je crois que dans le cas de notre société, c'est un manque de reconnaissance claire par rapport à toutes ces personnes qui œuvrent pour nous donner à manger. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait aussi être revu. Donc, cette fierté fait que finalement, fait que on subventionne, donc ça veut dire que on paye des impôts pour aider ces agriculteurs à vivre. Et c'est ça que se rendre compte aussi en tant que citoyen, c'est que où vont ces subventions, en fait, dans quelle poche finissent ces subventions. C'est ça qui est important de comprendre aujourd'hui. Uh-huh. Et c'est de comprendre que c'est pas dans la poche des agriculteurs, mais c'est dans la poche de la grande distribution
et de
l'agrochimie quand ce sont des produits non bio. Mmh. Et ça, c'est important de comprendre. Aujourd'hui, on ne le voit pas du tout, cela.
Non, moi, j'ai vraiment compris ça dans votre livre. C'est la première fois. Et donc, j'ai vraiment cette image maintenant de l'agriculteur qui est... D'ailleurs, le dessin dans votre livre le montre très, très bien. Les agriculteurs sont coincés entre les politiques d'un côté et les exigences de la grande distribution liées à l'agroalimentaire.
Effectivement. S'ils veulent toucher les subventions, l'aide financière de l'État... Ils doivent respecter les règles qui changent à peu près tous les 4 ans, à peu près à chaque législature. Et certaines fois, des gros investissements, puis tout à coup, on revient dans un autre sens. Donc, les agriculteurs qui ont fait de gros investissements se trouvent un peu coincés. Mmh. Et puis, je parle entre marteau et enclume. Mmh. Et d'autre part, ils sont coincés pour vendre l'ensemble de leur production. Ils doivent accepter aussi les prix indécemment bas, mmh, de la grande distribution qui les presse, qui presse, qui presse. Et finalement, ce qui est fou aussi, c'est de se rendre compte que tout au long de cette chaîne, avec tous les intervenants qui aient tous entre le produit qui sort du producteur et le produit fini en magasin, il y a une ribambelle d'intermédiaires qui tous font du bénéfice. Mm. Et il y a juste l'agriculteur, lui, qui ne peut pas vivre ce produit. Donc là, il y a vraiment
une
grosse question à se poser, oui, effectivement.
Ce que j'ai compris aussi en lisant votre livre, Lucien Vimin, c'est que finalement, ces subventions qui viennent de l'État, qui sont aussi appelées des paiements directs, ils viennent de nos impôts. Donc si moi j'essaie d'acheter le plus de possible de bio, en quelque sorte, on me force à empoisonner d'autres terres et d'autres aliments, et moi je paye, mmh, mes aliments bio à côté.
Effectivement, et d'où la question importante que l'on doit se poser en tant que citoyen aujourd'hui, du fait que 87% de l'agriculture aujourd'hui en Suisse est l'agriculture conventionnelle, donc qui utilise de la chimie, même si c'est l'agriculture IP suisse, par exemple, qui est nettement... Alors, depuis les années 90, mi-les années 90, l'agriculture suisse conventionnelle s'est bien améliorée, il faut le dire, quoi. IP suisse, ça c'est quelque chose qui est nettement meilleur, mais on est quand même toujours avec la chimie. Mmh. Donc ça veut dire qu'on est toujours en train d'empoisonner les sols, qu'on le veuille ou non, et avec la question qu'on doit se poser aujourd'hui en tant que citoyen, est-ce que je suis encore d'accord de payer des impôts, donc de participer à l'empoisonnement du vivant? Est-ce que je suis encore d'accord de payer des impôts pour une agriculture qui abîme la vie?
Imaginez un bulletin de vote avec cette phrase.
Ce serait pas mal.
Serait
je pense
bon,
que si on mettait une initiative en place, je pense qu'aujourd'hui, avec d'autres initiatives, une belle initiative qui est une Suisse libre de pesticides. Hein.
Ouais.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il suffit d'aller sur le site future3.ch et où ils trouveront toutes les explications de cette initiative qui est magnifique, qui est un cadeau pour, pour nous tous, pour la société. Mais je dirais que je pense que là, on pourrait avoir pas mal de signatures. Oui, le jour où on réalise ça. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore réalisé ce fait.
Mais parce que dans pesticides, il n'y a pas encore pesticides qui tuent la vie.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis, se dire encore au plus de ça, c'est que, vous voyez, quand on paye deux fois son produit, c'est-à-dire que je paye mon produit au magasin, mais en payant des impôts, parce qu'on doit subventionner les agriculteurs qui n'arrivent pas à vivre de leur production, mm-hmm, je paye des impôts pour pouvoir soutenir les agriculteurs. Et entre-temps, tous les intermédiaires, eux, font du bénéfice. Mmh. Donc, il y a un captage de l'argent qui est important. Il s'agit vraiment de se rendre compte et savoir où on veut aller.
Et comment on pourrait alors casser ce cycle?
Je pense que ça, c'est le rôle de tout consommateur, déjà, en tant qu'individu. Il y a le consommateur lui-même, nous tous, en tant que citoyens, consommateurs, et les politiciens, qui doivent aussi revoir leur copie. Malgré les efforts qui ont été faits ces dernières années, on doit faire plus, on doit aller plus loin aujourd'hui. On sent la société civile actuellement s'organise, on le sent.
Avec
des initiatives, une société libre de pesticides, il y a plusieurs choses qui arrivent dans ce sens-là. Donc on sent qu'on n'en veut plus de ceci. Et donc les politiciens doivent aujourd'hui sentir ça et faire ce qu'ils ont à faire, faire leur travail. Mmh. Et à partir de là, moi je fais des propositions politiques dans ce petit bouquin. À chaque fois, il y a des propositions politiques qui ont chaque fois fait mouche pour les deux premiers bouquins, j'espère que ça le fera aussi. Et l'idée, c'est vraiment aussi là de faire qu'on puisse une fois sortir de ces pesticides en disant, personnellement, je n'accepte plus de... Moi, personnellement, en tant qu'individu, je n'ai plus envie de subventionner l'agriculture qui abîme la vie. Mm-hmm. J'ai plus envie de ça. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai quelques propositions, bon, on ne va pas venir dans le détail, mais ouais. qui pourraient faire améliorer la situation. Mais en tant qu'individu maintenant, en tant que nous-mêmes, en tant que citoyens et consommateurs, nous, le seul moyen que nous avons aujourd'hui pour sortir d'une agriculture de pesticides de synthèse, le seul moyen que nous avons, c'est d'acheter du bio. C'est le seul moyen qu'ils avancent, c'est la seule porte de sortie que nous avons actuellement. C'est pour ça que c'est dommage lorsque j'entends, je suis triste quand j'entends des personnes ou des politiciens ou des journalistes certaines fois qui ont tendance à discréditer le bio, ont tendance des fois à le relativiser. Mais attention, on relativise le seul élément que nous, en tant que consommateurs, nous avons à disposition pour vraiment être sûr, pour pouvoir sortir de tout ça. Et pour être sûr d'avoir un produit sain. Et c'est le seul élément que nous avons à disposition. Donc c'est vraiment dommage d'enternir l'image.
Et comme on dit, acheter, c'est voter.
Oui, alors ça c'est clair, c'est quelque chose qui est répété dans le petit bouquin. Acheter, c'est voter. Donc si vous voulez vous sortir de ce monde de pesticides, ben, achetez bio. Et c'est vrai que par rapport au prix, on peut se dire, ouais, mais bon, j'ai pas les moyens. Alors j'ai la chance, moi, dans ma jeunesse, d'avoir vécu sans moyens. C'est-à-dire qu'on a manqué d'argent quand j'étais en adolescence. Ce qui veut dire que je peux comprendre les gens qui aujourd'hui ont un revenu difficile. C'est vrai, pour une petite minorité, je comprends que ce soit pas facile, voire pas vraiment possible. Mais ça, c'est une minorité. L'essentiel, la majeure partie d'entre nous, nous pouvons consommer bio. Et simplement, c'est une question de choix. C'est-à-dire que personnellement, on a fait le choix en famille. Nous avons décidé de consommer moins, c'est-à-dire d'acheter moins. Donc, de consommer moins. On a sorti des gadgets, on n'a plus de gadgets. Quand on a des objets, on va beaucoup acheter au troc. Parce que là, on économise de l'argent, mais en même temps, surtout, on économise de l'énergie grise, on économise la pollution des sols, des airs et de l'eau. Et en même temps, on mange moins de viande. Donc, tous ces éléments-là font que le panier aménagère a changé, notre milieu familial. Et ce qui veut dire qu'à partir de là, ça dégage en fait des économies, de grandes économies. On est surpris de voir ce qu'on peut économiser, comme le zéro déchet par exemple, c'est typique, on économise beaucoup, les déchets en moins. Et toute cette économie-là, ces économies, ben, ça nous permet de les mettre pour de l'alimentation saine. Voilà. Et on sait que là, on encourage une agriculture qui va dans le sens du prendre soin de la vie, plutôt que d'abîmer la vie. Et ça, c'est très important.
Et puis, il y a cette autre notion que j'aime bien aussi, c'est de dire que aujourd'hui, un ménage dépense à peu près 7% de son argent en nourriture, alors qu'il y a deux générations, on en dépensait 40%.
Mais totalement. On voit vraiment, et comme on le disait auparavant, de dire les priorités.
Où sont les priorités?
Voilà, et on sent qu'on.
L'iPhone ou l'assiette?
C'est ça, ouais, c'est vraiment ça, l'iPhone ou l'assiette. Hein, ouais.
Et c'est vrai que. Essayez de manger un iPhone pour voir.
Ouais, ça fait pas mal. Ou manger de l'argent. Essayez de manger de l'argent. Ça, c'est intéressant, ça n'ouvrira pas son bonhomme, quoi.
On va faire une petite pause musicale. Tous les cris, les SOS, c'est une chanson magnifique de Balavoine. Ici, elle est reprise en hommage à Balavoine par Stéphane Eicher.
Quand ma fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'entends. D'appeler au secours quand tant de drames nous empressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie. Tous les cris, les SOS, battent dans les airs. bouts de verre. J'ai récolté tous les morceaux. Tout était clair comme de l'eau. Contre le passé, y a rien à faire. Il faudrait changer les héros. Dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent. Comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie.
Qui était aussi très sensible à l'écologie. Ici, sa chanson reprise par Stéphane Eicher.
Radio Fribourg, c'est que du bonheur.
Je vous rappelle que nous sommes avec Lucien Vuillemin et que nous parlons de son nouveau livre. Tu parles, Charles. Manger local, c'est loin d'être idéal. Alors, on a parlé du bio tout à l'heure, de la situation des agriculteurs aussi, de ce qu'on peut faire, nous, les consommateurs, pour améliorer la situation. Et puis, on va s'intéresser deux secondes à ce qu'on entend souvent. Moi, je l'ai aussi entendu souvent de la part de politiques, même de politiques verts. La chimie est tout de même indispensable si on veut que tout le monde puisse avoir de la nourriture.
Ah, effectivement, c'est ce qu'on entend régulièrement et c'est un peu l'épée Damoclès qui est mise sous nos têtes. Je dirais déjà se poser une question, le gaspillage. Mm-hmm. Donc l'agriculture biologique, c'est 15 à 20% de moins au niveau des rendements. Le gaspillage, c'est à plus de 30%. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'il faut savoir aussi qu'on gaspille beaucoup de nos terres pour finalement faire la nourriture qui passe à la poubelle. Mm-hmm. La nourriture qui passe à la poubelle avant même d'avoir franchi les portes du magasin, mm-hmm. en fait. Hein, le fait que j'ai un copain agriculteur qui habite dans les franches montagnes et qui a un contrat avec un des deux grands distributeurs suisses et où il a investi sur un semi-remorque pour aller chercher 6 tonnes de pain par jour. Par semaine, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des tonnes de pain qui, chaque semaine, sont mis à la poubelle. Mm-hmm. Tout ça pour qu'à 6h30 le soir, ou 6h25, il y a encore du pain frais. Oui. Donc ça, c'est des questions à se poser. Donc, et c'est là qu'on a aussi une grande marge à disposition. Mais au-delà de cet aspect du gaspillage, il faut aussi bien se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, dans différents lieux de la planète, on a les terres qui deviennent arides, en fait. On se rend compte que finalement, l'humus disparaît. Même en Suisse, apparemment, dans le Zélande, l'humus commence à affaiblir. Ceci dit, ça veut dire que finalement, l'agriculture chimique, telle que l'on la pratique maintenant depuis plusieurs décennies, c'est quelque chose qui, à un moment donné, appauvrit les sols. Et or, certes, en Suisse, nous avons fait de gros efforts, de gros progrès. Ceci dit, ça continue. Et surtout, ce que l'on prend un peu compte dans cette forme d'agriculture-là, c'est qu'en fait, on a aussi ce que l'on appelle l'effet cocktail. C'est-à-dire que même si on diminue les doses, même que les doses, ceci dit, il faut savoir aussi que la dose n'a absolument aucune corrélation par rapport au degré de nocivité du produit lui-même. C'est-à-dire qu'on peut avoir une cuillère d'un produit peut être moins toxique qu'une goutte de l'autre. Mm-hmm. Donc, c'est assez relatif, la dose. Mais ceci dit, assurément, ce mélange toxique qui part dans les sols et qui finissent dans les eaux, finalement, ou dans les airs, c'est des choses qui, à un moment donné, on ne sait absolument pas où on va. Et celui qui viendrait à prétendre qu'il maîtrise la situation, ben, c'est simplement une personne qui ment. Donc, il s'agit vraiment de se rendre compte que là, on somme de grands apprentis sorciers. Il s'agit vraiment aujourd'hui de se reprendre en main et de commencer à voir les choses différemment.
Mais d'accepter aussi, peut-être, tout simplement, que ce système ne fonctionne pas.
C'est ça. D'accepter, c'est-à-dire que se rendre compte que, sur le court terme, alors, on a en Suisse la chance d'avoir un laboratoire à ciel ouvert, du côté de Terreville, dans le canton de Bâle, on appelle ça l'essai DOC. C'est fait depuis 1978 que là-bas, il y a 4 parcelles qui analysent les 4 formes d'agriculture qu'on trouve aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a donc DOC, hein, donc pour biodynamie, pour l'agriculture biologique, mm-hmm. organique, et pour l'agriculture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle et l'agriculture IP. Donc on a 2 formes d'agriculture conventionnelle. Ouais. Et pour voir quels sont les résultats, Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'au début, bien sûr, alors l'agriculture chimique a des effets dopants très tôt, les premières années, mais entre 15 et 20 ans, les courbes de rendement se rejoignent. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a une diminution au niveau de l'agriculture chimique et une augmentation de l'agriculture biologique. Pourquoi ? Parce que simplement l'agriculture biologique prend soin des sols et la fertilisation des sols est beaucoup plus durable. Alors que finalement, même si on pense prendre soin des sols avec l'agriculture chimique, dans un premier temps, c'est qu'on nous le dit certaines fois avec des personnes qui sont très haut placées politiquement, on voit qu'à la fin, il y a une dégradation des sols. Donc, on a la chance ensuite d'avoir la preuve que nourrir la planète avec l'agriculture biologique, c'est possible.
Faisable.
Sur le long terme.
Ouais.
Sur le long terme.
Donc, en conclusion, puisqu'il nous reste une minute et demie, ouais, Lucien, ça passe vite.
Hein.
Il s'agit aujourd'hui simplement et personnellement de choisir quelle agriculture on a envie d'encourager.
Ah, c'est ça. C'est vraiment ça. Savoir quelle agriculture je veux encourager. Est-ce que je veux encourager une agriculture qui abîme la vie ou une agriculture qui prend soin de la vie? C'est là le choix que nous avons à faire, simplement. Alors moi, je dis à vous de choisir.
Et puis, on trouve plein d'explications, plein d'idées, plein de conseils, plein d'analyses dans ce livre qui s'appelle « Tu parles, Charles, manger local, c'est loin d'être idéal ». Où est-ce qu'on va le trouver, ce livre?
Alors, dans toute librairie. Ensuite de quoi, on peut aussi le trouver sur le site de lucien.lu. Lucien.lu, la chaussure rouge aussi, vous donnerez que trois éléments. La chaussure rouge.net ou Lucien.lu. Mais pour les commander, on peut les commander en ligne. Donc Lucien.lu, c'est l'éditeur qui s'occupera de vous faire parvenir ça chez vous.
Voilà. Et puis si vous n'avez pas encore lu les deux premiers, En voiture Simone ou Fonce Alphonse, prenez les trois à la fois. Comme ça va peut-être vous faire beaucoup réfléchir. Lisez-les sur l'été, comme ça, sur les vacances.
C'est ça. Et surtout, commencez. Vous verrez que sur le dos, il y a un numéro 1, 2, 3. C'est vraiment important de commencer par le 1 et le 3 parce que c'est vraiment une suite. Et en ayant lu ces trois petits livres, en fait, vous aurez une vision beaucoup plus large de la question environnementale. Ça vous permettra de détecter en fait des idées reçues dans lesquelles nous naviguons tous au quotidien, et aussi bien décoder aussi des fois des choses bizarres qui nous sont dites aussi bien dans les débats politiques que certaines fois au niveau publicitaire ou simplement ce qu'on peut entendre comme émission. Télévisée ou radiophonique.
Alors n'oubliez pas aussi que acheter, c'est voter. Si vous achetez du conventionnel, vous votez pour l'agrochimie. Si vous achetez du bio, vous votez pour la main-d'œuvre et pour votre santé. On va se quitter avec une chanson de Grégoire. Des fois, on a de la peine à penser que cette planète appartient à tous et que nous avons tous le droit d'être en bonne santé. Grégoire, il a un autre message, c'est qu'on a tous le même
soleil.
Merci Lucien.
Merci beaucoup, Maël. Merci. Au revoir à toutes et à tous.
Même drapeau, ni la même couleur de peau. On n'a pas le même langage, la même culture, les mêmes images. On n'a pas les mêmes racines, les mêmes idoles qui nous fascinent.
message est clair. Grégoire sur Radio FM.